coup d'envoi des Jeux olympiques de Pyeongchang sera donné le 9 février prochain. La délégation canadienne a dévoilé l'identité de ses porte-drapeaux. Ça s'est fait au Parlement d'Ottawa ce matin en présence du premier ministre Justin Trudeau. Et on va en parler avec Sylvain Leclerc, que vous avez déjà entendu ici au FM 93, qui a déjà été impliqué grandement dans la diffusion des Jeux, dans les communications aux Jeux olympiques. Bonjour Sylvain.
Bonjour Marie, ça va bien?
En pleine forme, toi?
Oui, magnifique.
Ouais, ce sont quand même deux préférés du public, deux coqueluches du public qui auront l'honneur de porter le drapeau, les patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Moore. Comment est-ce que l'annonce a été reçue?
Ben, en fait, je pense que c'est une décision qui est unanime. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment dire que c'est un mauvais choix. Là. Je pense que le mot coqueluche, c'est vraiment un mot qui est à point dans leur cas. C'est des athlètes adorables, c'est des personnes adorables que j'ai côtoyées qui sont vraiment d'une simplicité, d'une générosité absolument touchante. C'est vraiment beau de les voir aller sur la glace. Ils sont absolument incroyables. Puis leur palmarès sur la glace, il y a plus personne qui peut douter de leur talent. 8 fois champion canadien, 3 fois champion du monde, 3 médailles aux Olympiques. C'est parmi les plus grands dans le sport dans l'histoire du pays, sans contredit.
C'est un honneur quand même d'être porte-drapeau lors des cérémonies d'ouverture. Ça vient aussi avec une certaine pression parce que, bon, on les regarde. Et raconte-nous comment ça se passe dans le stade. Parce qu'on attend de nombreuses minutes, même de nombreuses heures avant de pouvoir avancer avec le drapeau.
Ouais, ben à partir du moment où les athlètes embarquent dans l'autobus dans le village jusqu'au moment où ils retournent au village en autobus après la cérémonie, ça peut être environ 10 heures. Là, on part pratiquement 2-3 heures avant la cérémonie du village pour aller en autobus. Là, on attend le temps que tous les pays rentrent. Évidemment, l'hiver, ben il y a moins de pays que l'été, là, donc le processus est plus rapide. Mais il y a quand même des bonnes lignes là, parce qu'on est avant un pays et derrière un pays. Donc là, avant qu'on entre dans le stade, oui, c'est long. La cérémonie dure quelques heures. De moins en moins, je pense que ça peut avoir un impact sur la performance parce qu'on prépare de mieux en mieux les athlètes et on joue de manière beaucoup plus intelligente avec le calendrier. C'est peut-être une des raisons pour laquelle, disons, Charles Hamelin, qui est un athlète qui mériterait grandement de porter le drapeau comme à la cérémonie d'ouverture, parce que Charles Hamelin, en fait, sa première compétition, c'est dès le lendemain des Olympiques. Donc, lui, la veille, il ne voudra pas aller se coucher à 2 heures du matin. Il va vouloir regarder la cérémonie à la télé dans le village avec ses collègues, avoir une bonne nuit de sommeil puis être prêt pour sa compétition le lendemain. Puis dans le cas, en fait, de Tessa et Scott, ben eux, ils ont eu une journée de plus. Donc, leur première compétition, c'est la compétition par équipe en patinage artistique. Leur première performance, c'est le 11 février. Leur deuxième, c'est le 12. Et après, leur épreuve à eux, là, qui est l'épreuve de danse, c'est le 19 et le 20. Donc, où on joue un peu mieux que dans les dernières années puis on prépare mieux les athlètes par rapport à ça. Donc, je pense que oui, ça peut avoir un impact sur la performance, mais je pense que la préparation au préalable qu'on fait avec les athlètes les aide. Puis si on regarde en fait les résultats des athlètes, surtout aux Jeux d'hiver, on se rend compte, bon, en 2014, Ellie Wickenheiser, porte-drapeau, avait gagné la médaille d'or dans le tournoi de hockey. Clara Hughes, en Vancouver, en 2010, avait gagné une médaille de bronze dans une épreuve. Ensuite de ça, à Turin, en 2006, Daniel Goyette avait remporté la médaille d'or dans le tournoi de hockey. Et en 2002, c'était Catherine Lemédon qui avait gagné la médaille d'or aux 500 mètres. Donc, en fait, la dernière personne qui a le dernier porte-drapeau d'un jeu d'hiver qui a pas gagné une médaille, c'est Jean-Luc Brassard en 98. Il avait fini 4e. Donc, il était passé vraiment tout près là, du podium. Là.
Alors, Sylvain, là, tu viens de déboulonner complètement le mythe où on disait qu'il y avait la malédiction du porteur de drapeau. C'est-à-dire que ça a mal été pour Jean-Luc Brassard. Puis, il a souvent expliqué cette mésaventure après. Puis, il y a eu des correctifs d'apporter.
Exactement.
On encadre mieux les athlètes. On regarde le calendrier, comme tu nous l'as si bien expliqué. Autre nouvelle intéressante confirmée aujourd'hui, c'est Éric Gay, skieur du Mont-Tremblant, qui, malgré ses blessures, des problèmes de santé, il ne compétitionne plus depuis quelques semaines, mais il annonce aujourd'hui qu'il sera en Corée du Sud.
Ouais, ben Éric Gay, c'est un guerrier là. À son âge, écoutez, lui, il était vraiment abonné à la liste des blessés, le terme qu'on utilise au hockey là, depuis les débuts de sa carrière. Blessé en 2003, blessé en 2006, blessure en 2007, il était blessé au dos. Il y a une arthroscopie au genou droit en 2012 et une arthroscopie au genou gauche en 2013. Il a été réopéré au genou gauche en 2014. Puis là, il y a des blessures au dos. Donc, c'est les années les années d'entraînement, les années de compétition. Le ski alpin, c'est un sport qui est extrêmement demandant sur le physique. Donc, Eric, c'est un guerrier. Là, s'il y a quelqu'un qui pourrait abandonner, c'est lui, mais c'est quelqu'un qui abandonnera pas. Lui, il a vu sa médaille olympique. C'est la dernière chose qui lui manque. Il a tout gagné dans sa vie. C'est le skieur canadien le plus décoré de l'histoire. Il a fini 4e aux Olympiques. Il a fini 5e. Donc là, il la veut vraiment. Est-ce qu'il sera dans un état physique pour remporter une médaille? On ne le saura pas, mais il peut avoir une bonne source d'inspiration tout près de lui. On se souviendra qu'à Sochi, Jan Udek, qui est un autre abonné à la liste des blessés, il avait fini 3e. Donc, Jan Udek, qui avait les genoux complètement finis, le dos complètement fini, est allé gagner une médaille à Sochi. Donc, collègue d'Éric Gay, qui est à la retraite maintenant, mais je pense qu'Éric peut facilement s'inspirer des exploits de Jan Udek pour finalement, je lui souhaite vraiment de gagner enfin une médaille olympique à sa dernière participation aux Jeux.
Oui, puis on peut regarder aussi chez les Américains, Lindsey Vonn est brisé tout bord, tout côté, puis elle continue de performer.
Exactement.
Écoute, est-ce qu'il reste encore des athlètes de pointe dont on n'a pas encore confirmé leur participation aux Jeux?
Oui, ben en fait, techniquement, Éric Gay, l'équipe de ski alpin n'est pas encore annoncée. Ça va se faire la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, c'est vraiment la dernière semaine où tous les processus de qualification vont finir. Alex Harvey non plus, l'annonce n'est pas officielle encore. L'équipe de ski de fond sera aussi annoncée la semaine prochaine. Et c'est la même chose avec l'équipe de ski acrobatique. Donc, Michael Kingsbury, il est sorti du four de la pointe, Olivier Rochon en saut. Donc, ça, on saura là, dès la semaine prochaine qui sera ou non sur l'équipe. Donc, c'est quelques-uns des noms sur l'équipe canadienne, surtout au point de vue des Québécois, là, qu'on devrait officialiser la semaine prochaine.
Oui, puis ces annonces-là aident un peu à faire mousser l'engouement entourant les Jeux olympiques qui commencent le 9 février prochain. Aujourd'hui, on a vu le premier ministre Justin Trudeau porter les couleurs de Team Canada. Alors, on sent que l'esprit olympique commence tranquillement pas vite à gagner les gens ici. Mais en Corée du Sud, qu'est-ce que tu sais, là, où est-ce qu'ils en sont dans les préparatifs? La vente de billets, entre autres, comment ça va?
Ben ça s'est beaucoup amélioré. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était juste au début du relais de la flamme. Puis là, à cette époque-là, il y avait 30% des billets qui avaient été vendus, ce qui était vraiment pas beaucoup. Puis là, aujourd'hui, les derniers chiffres, on est rendu à 60. Donc, en l'espace de 3 mois, en fait, on a doublé la vente de billets. L'objectif du comité d'organisation, c'est 90%. Ça va être difficile. S'ils réussissent, tant mieux, je leur souhaite. Ça risque d'être difficile parce qu'on est quand même assez loin de. Il risque qu'il faut qu'il aille chercher un autre 30%. Mais il y a des sports, évidemment, qui se vendent mieux. Là. Il y a des sports comme le ski alpin, 80% des billets sont vendus en courte piste, qui est vraiment le sport d'hiver par excellence en Corée du Sud. 74% des billets, par contre, ont été vendus. Puis il y a même une amélioration pour ce qui est des Jeux paralympiques. Quand on s'était parlé au mois d'octobre, je pense qu'il y avait entre 1 et 2% des billets qui avaient été vendus. Là, on est rendu à environ 35-37%. Donc, c'est vraiment très, très loin. Là. C'est même pas la note de passage. On n'est même pas à 50%. Mais bon, là, la flamme vient d'arriver à Séoul. Ou arrive à Séoul demain. Donc là, ça aussi, ça va aider à mousser les Jeux. Il faut dire que Séoul, c'est la grande ville en Corée. Pyeongchang, c'est un petit comté de 43 000 personnes en montagne. Séoul, c'est une ville de 10 millions. Donc, en fait, c'est la population de Séoul qui doit se déplacer vers Pyeongchang pour que les Jeux soient un succès.
Il nous reste quelques minutes seulement. Je veux que tu me parles de 3 histoires qui ont attiré ton attention cette semaine quand tu regardais ce qui se passait ailleurs dans le monde.
Oui. La première histoire, en fait, je trouve ça très drôle. C'est ce qui est le fun avec les Jeux. C'est justement ces belles histoires intéressantes. Ouais. Il y a un sauteur à ski japonais. Il s'appelle Noriaki Kazai. Il va être à sa 8e participation aux Jeux olympiques d'hiver. Le gars, 45 ans. Oh! Lui, il vient de battre un record. Donc, s'il y en a qui pensent qu'ils sont vieux, là, ne lâchez pas. Là. Lui, il est à 45 ans. Il est aux Jeux olympiques. C'est sa 8e participation. C'est un nouveau record. En fait, c'est un record des Jeux d'hiver. Il détenait le record. Il avait égalé avec 7 à sa participation à Sochi. Puis il est encore quand même assez bon, là. Lui, il avait gagné sa première médaille à Lillehammer en 94. Puis à Sochi, donc 20 ans plus tard, il avait gagné 2 autres médailles. Donc là, il y a 3 médailles olympiques. Le mec, il est là cette année. Il est 38e au classement. Il a participé à 500 Coupes du Monde en carrière. Puis lui, il dit non, mais moi, j'arrête pas, là. Moi, je veux continuer jusqu'à 50 ans. Et non seulement je veux continuer jusqu'à 50 ans, à Pyeongchang, je veux gagner la médaille d'or. Donc lui là, c'est pas, il va pas là juste pour participer, il va là pour gagner. Donc ouais, lui, c'est jamais... vraiment une histoire.
En saut à
une
ski.
Une histoire on... à suivre, là.
Oui, puis en saut à ski, ouais. Tu sais ce qu'on dit, hein? Sky's the limit, là.
Oui, c'est. En tout cas, lui, il le voit souvent, là, parce qu'il est pas mal tout le temps dedans, là. Puis il y a une autre histoire qui est intéressante aussi, c'est la participation du Kosovo. En fait, le Kosovo, ancienne république de la Serbie à l'intérieur de l'ancienne Yougoslavie, qui est un pays indépendant depuis dizaines d'années, a participé à ses premiers Jeux olympiques en 2016 à Rio parce qu'il était reconnu comme comité olympique en 2014 seulement. Et là, pour la première fois, le Kosovo aura un athlète. En fait, pour le moment, il y a un seul athlète qui est qualifié, un athlète en ski alpin. Il risque d'en avoir peut-être deux ou trois. Donc là, le Kosovo qui participera pour la première fois aux Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang.
Oui, puis on confirme. Oui, puis on confirme que la Jamaïque va envoyer une équipe de bobsleigh féminin.
Oui, oui, là on se rapproche de l'histoire de Cool Runnings avec l'équipe jamaïcaine de bobsleigh masculin qui est allée en 88 à Calgary. Donc là, c'est la première fois qu'il va y en avoir une équipe féminine de bobsleigh. En fait, il y a une des deux filles qui est sur l'équipe qui avait participé aux Olympiques à Sochi en 2014, mais au sein de l'équipe américaine. Elle a joint une collègue pour avoir le premier bob à deux féminin. Et il y a même aussi une équipe du Nigeria. Donc, une équipe du Nigeria, bobsleigh féminin aussi. Et là, ça, c'est la première équipe en bobsleigh qui vient d'Afrique à participer au jeu. Donc là, cette année, là, il y a deux belles nouvelles là, qui viennent de pays, on est loin de la Norvège, puis on est loin de pays nordiques, de la Pologne.
Mais on est proche des performances sportives parce que pour la poussée de départ, on va chercher des sprinteurs et des sprinteuses. C'est pour ça qu'on les retrouve dans ces sports-là. Hey Sylvain, merci de nous avoir parlé cet après-midi.
Ça fait plaisir.
Il y a plein d'autres choses à raconter concernant le début de ces Jeux. On aura sûrement la chance de se reparler.
À bientôt.
Sylvain Leclerc, donc, qui a longtemps été impliqué dans la diffusion de Jeux olympiques et dans les communications. Le retour.